Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-télévision suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission culturelle internationale francophone. Aujourd'hui, un hommage avec une grande personnalité de la mode, une escale aux USA chez Trump, un essai canadien inattendu sur les bouses et un roman choc d'un célèbre auteur français. C'est un roman coup de poing qui va forcément vous faire réagir et c'est sans doute le but de l'auteur. Grégoire Delacour, l'auteur du roman à succès La liste de mes envies, s'attaque à la pédophilie et à la protection des enfants face aux dérives de certains curés. Bonjour Grégoire Delacour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Depuis jeudi, le pape François a organisé un sommet anti-pédophile où les victimes témoignent. Le film de François Ozon sur ce même sujet vient de sortir en salle en France et en Suisse. Pourquoi vous êtes-vous attaqué à ce sujet très difficile et très sensible?
C'est un sujet chez moi très ancien qui vient de loin et il fallait du temps pour oser l'affronter. C'est une énorme colère au départ pour un grand cri d'amour à l'arrivée.
Donc un peu personnel?
Oui, forcément, c'est des choses qui frôlent l'intime.
Bon, on en parlera tout à l'heure ensemble. C'est un livre très poignant, très dur, mais essentiel aussi. Un véritable coup de poing littéraire. Merci Grégoire d'être avec
Merci.
Nous. Nous irons aux États-Unis décrypter donc le langage de Donald Trump avec la traductrice Bérangère Viennot. Il sera aussi question d'un essai improbable sur la matière fécale avec le scientifique et humoriste canadien Boucard Diouf. Vous allez être surpris par certaines pratiques animales et végétales. Et puis une séquence consacrée à Karl Lagerfeld dans un instant avec notamment Nathalie Riquiel, qui nous a reçus chez elle à Paris pour nous confier en toute intimité ses souvenirs avec l'icône de la mode.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme chaque semaine. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada dans la librairie et Carcajou à Rosemère. En France, on retrouve Mathieu Colombe, libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Pour la Suisse, revoici Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
En pleine forme Claire. Hein Et enfin en Belgique, Annick Dor est parmi nous. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
En raison d'un mouvement de grève à la RTBF, vous êtes en liaison téléphonique. Merci d'être avec nous quand même. Vous êtes libraire dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe.
La librairie francophone.
Démodé, pas démodé, vous savez. Hein. La mode et la musique, c'est identique. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque?
On a tout dit ou presque sur Karl Lagerfeld qui est mort donc mardi à l'âge de 85 ans, discrètement, de façon presque antagoniste au regard de sa vie, constamment sous la lumière des projecteurs du monde. Karl Lagerfeld, terreur des podiums, souvent sans filtre, aura joué un rôle majeur pour le monde de la mode, inspirant, influençant les créateurs du monde entier, renouvelant aussi Chanel comme personne ne l'avait fait depuis la mort de Coco Chanel. Passionné de livres, possesseur de 300 000 ouvrages, propriétaire d'une librairie et éditeur. Il a publié une trentaine de livres, dont celui consacré à sa chatte Choupette. Choupette qu'il désignera comme son héritière. Et oui, tout est possible dans le monde de la mode. Nathalie Riquiel a reçu la librairie francophone cette semaine pour un témoignage intime qui convoque aussi une autre icône de la mode disparue, Sonia Riquiel. Bonjour Nathalie Riquiel.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Saint-Germain-des-Prés, ici à Paris, juste à côté de la boutique légendaire Sonia Riquiel. Comment était-il Karl Lagerfeld, vous qui l'avez connu? Quel homme était-il vraiment?
Je ne pourrais pas répondre à cette question parce qu'il se cachait bien, Karl. Mais je l'ai connu et je l'ai connu il y a longtemps. Et c'était quelqu'un qui était... adorable et très intimidant à la fois. C'était quelqu'un qui s'est construit sa légende et qui n'était pas si différent de son personnage. C'était un homme extraordinairement cultivé, qui digérait tout très très vite. Je pense qu'on pourrait, une de ses caractéristiques serait la vitesse. Il dessinait vite, il photographiait vite, il faisait de la mode vite, tout ce qu'il faisait, il le faisait vite. C'était son rapport à l'époque, et il avait tout compris d'ailleurs, il était vraiment l'instantané de l'époque. Il ne regardait pas derrière. Le passé ne l'intéressait pas, c'est-à-dire l'histoire l'intéressait, mais l'histoire, il l'avait apprise et digérée. Et ce qui l'intéressait, c'était aujourd'hui et demain, et c'était les nouvelles choses, la curiosité, la jeunesse. Ça, c'était très intéressant.
Tout était question d'élégance et d'allure pour lui. Alors, il y a une accointance, je dirais, avec Sonia Riquel, parce que Sonia Riquel nous a souvent parlé dans la librairie francophone de l'élégance et de l'allure. Et elle disait que toutes les femmes, finalement, pouvaient avoir de l'allure. Et c'est ce que dit aussi Karl Lagerfeld, qu'à partir du moment où on arrive à les habiller, tout le monde peut avoir une allure, quel que soit son physique.
Oui, enfin, Karl pouvait aussi être beaucoup plus acide. Karl, il allait quand même toujours vers les plus jolies filles, vers la fraîcheur, et quand il y en avait une qui lui plaisait plus, il passait à une autre. Ça l'empêchait pas d'être un homme extrêmement généreux, mais il avait cette causticité tout de même. Il s'en foutait de, je veux dire, il avait pas de surmoi. Je pense que c'est un homme qui était probablement très seul. Extrêmement entouré, évidemment, comme tous les dieux, mais très solitaire.
Quelles étaient les relations entre Sonia Riquel et Karl Lagerfeld? Vous connaissez les relations précises entre ces deux figures de la mode?
Écoutez, je sais, oui, de très jolies relations. En tout cas, au tout début, je me souviens que quand ma mère a fait les premiers défilés dans sa boutique, la première boutique rue de Grenelle, je me souviens très bien que Karl, qui à l'époque dessinait pour Chloé, pour la maison Chloé, et qui n'était pas du tout connu comme... aujourd'hui, était venu avec la première caméra vidéo, je crois, filmer sa collection. Elle avait fait défiler un vêtement sur une mannequin avec un pullover Sonia Riquel, un Bermuda Kenzo, il y avait une étiquette marquée Kenzo, et une blouse Chloé par Karl Lagerfeld. Donc c'était tout à fait précurseur. Et Karl lui avait dit, tu tiens quelque chose, c'est formidable. Mais en tout cas, par la suite, Karl lui envoyait beaucoup de dessins. J'ai une collection de dessins de portraits de ma mère par Karl. Beaucoup de lettres. Karl écrivait beaucoup avec une écriture absolument extraordinaire. Et j'ai moi-même aussi beaucoup de lettres de Karl. Et puis, il s'appelait, c'était très mignon parce que Karl lui envoyait tout à chaque défilé. Il lui envoyait un énorme bouquet de fleurs. Et elle l'appelait en coulisses avant chacun de ses défilés pour lui dire merde.
Ah oui.
Ouais, et c'était vraiment leur tradition et ils avaient gardé ça.
C'est vrai qu'ils se sont suivis quand même, hein, entre Sonia Riquel et Karl Lagerfeld, parce qu'ils ont tous les deux d'ailleurs participé à une collection pour une grande maison de prêt-à-porter suédoise, on va pas citer la marque. Voilà, tous les deux, ils ont participé à démocratiser comme ça la mode tendance haute couture. Et puis les livres, passionné de livres, Karl Lagerfeld était entouré de livres, comme votre maman.
Oui, absolument. Karl a été le tout à fait précurseur par rapport à ce qu'on appelle le mastiche, c'est-à-dire collaborer avec des magasins de très grande diffusion les collections. Et il a été le premier à le faire à cette échelle-là. Mais Sonia l'avait fait avant lui, en 72, avec les Trois Suisses. Elle a été la première créatrice de mode à décidé de rendre sa mode accessible au plus grand nombre de femmes. Et ça, c'était en 72. Et puis, évidemment, Sonia a toujours été hantée par les livres. Elle a tout de suite voulu mettre des livres en boutique parce que des robes sans les livres, ça n'était pas suffisant. Et Karl adorait les livres. Karl, je suis allée chez lui, enfin, la bibliothèque rue de Lille qui montait jusqu'au plafond. Il est devenu par la suite éditeur. Et moi, j'adorais l'histoire qui disait qu'il se faisait, à une époque, livrer par son libraire fameux, que je ne citerai pas, il se faisait livrer tout ce qui arrivait et en fait il renvoyait ce qu'il ne voulait pas garder. C'est extraordinaire.
Sacré logistique.
Ouais. Formidable. Excessif,
oui, c'est vrai. On peut terminer par ce mot-là. Merci beaucoup, Nathalie Riquel.
Je vous en prie, c'est un grand plaisir de parler de Karl, qui restera un homme tout à fait unique, singulier, extraordinaire.
Et on pense à votre maman qui a souvent participé à la librairie francophone, avec qui on a passé des moments merveilleux, ici même d'ailleurs, dans cet endroit, et puis évidemment en studio. Merci Nathalie.
Merci à vous.
Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont ni jeunes ni très minces, qui sont très élégantes quand même, et c'est même pas question de beauté.
Non, c'est une question de tenue, je crois.
De tenue, de savoir bouger. Même une femme pas jolie peut avoir beaucoup d'allure, beaucoup de chic.
Et sur cette musique du groupe canadien Caribou, qu'affectionnait particulièrement Karl Lagerfeld, on part au Canada pour cet hommage avec un grand créateur de mode et designer québécois, l'un des plus grands noms de la mode au Canada. Bonjour Jean-Claude Poitras.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Quelle a été l'influence de Lagerfeld au Canada et plus généralement sur le continent américain selon vous?
Ah ben c'était énorme hein, parce que vraiment il a su brillamment tout réinventer. Je crois qu'il a apporté le glamour hollywoodien à la mode internationale et la modernité à la haute couture. Alors donc, je crois que ça rejoignait le meilleur de l'Amérique et le meilleur de l'Europe. Alors, je crois que ça reste un maître à penser, un monstre sacré. Pour moi, c'est un génie rebelle, irrévérencieux, provocateur, capable de tout, quoi.
Oui, il vous a influencé, vous-même, vous l'avez croisé quelques fois. C'était une personnalité imposante, intimidante pour vous également, mais vous a-t-il influencé?
Oui, mais absolument, parce que vous savez, je crois que Monsieur Lagerfeld, sous ses allures de dandy, aux allures de rockstar, je crois qu'il était un véritable visionnaire, là, parce que il a tout de suite compris l'importance de la co-création, des collaborations avec des grandes maisons de couture. Je crois que ça, c'était la transversalité, la pluridisciplinarité qui est tellement actuelle en ce moment.
Avec des entreprises, vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, hein, Jean-Claude Poitras. Avec des entreprises, avec Air Canada, par exemple, vous avez habillé le personnel d'Air Canada, lui, dans d'autres registres aussi, a fait des collaborations.
On a des points communs comme ça. Et puis, vous savez, je crois que j'ai réalisé que dans ce métier, l'importance n'est pas d'arriver, mais c'est de durer. Et je crois que M. Lagerfeld l'a prouvé, alors que tellement de créateurs de mode, de couturiers, ont pas su, vous savez, durer dans le temps. Mm-hmm. Ils ont marqué une époque, les années 80, peu importe. Mais Karl Lagerfeld est toujours resté tellement actuel. On demande à tous les jeunes actuellement, ici au Canada et partout en Amérique, et ben tout de suite, le nom de Karl Lagerfeld est très, très, très... Enfin, les accroches, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à croire qu'il avait 85 ans.
Là. Oui, c'est vrai.
C'est admirable, vraiment.
Admirable, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Claude Poitras, d'être intervenu dans la librairie francophone. Merci à vous.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Et bonjour Bérangère Viennot.
Bonjour Emmanuel.
Nous allons parler du langage de Trump avec vous. Vous avez publié La langue de Trump aux éditions Les Arènes. Vous êtes traductrice pour la presse et vous démontrez dans ce livre que la traduction de ses discours est plutôt complexe. Pourtant, son langage est simple, scolaire même.
Et oui, c'est le paradoxe de Trump. On a l'impression qu'on comprend tous les mots et quand on cherche le message, quand on creuse un peu, on comprend plus rien.
Vous et vos collègues, vous avez compris ça très vite hein, quand il est arrivé au pouvoir. Vous avez compris qu'il n'allait pas se plier aux usages formels de la présidence.
Oui, même avant, quand il est devenu candidat, quand il a été investi par les Républicains, on s'est rendu compte assez rapidement que si on essayait de traduire le contenu de ses discours, on se heurtait à plusieurs écueils. D'une part, la vacuité du discours, et d'autre part, la forme, qui n'était pas du tout la forme ordinaire des hommes politiques.
On va écouter la forme, justement. On va écouter Donald Trump. Vous allez le traduire en simultané, tel que c'est énoncé, hein, si vous voulez bien, texto.
On y va.
En simultané, allons-y, écoutons Trump avec Bérangère Viennot qui traduit.
Together,
ensemble,
we will make America strong again.
Nous allons rendre sa force à l'Amérique.
America wealthy again.
Nous allons lui rendre sa fortune.
We will make America proud again.
Sa fierté.
We will make America safe again.
Sa sécurité.
And yes, together, we will make America great again.
Et oui, ensemble, nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique.
À Alors quel est le problème, Bérangère Viénot ? Trump est simple, il est clair, efficace, vous diront ses soutiens.
Alors là, c'est particulier, vous avez passé un extrait qui est en fait un slogan, c'est de la publicité, oui, c'est de la communication. Donc c'était pas très compliqué à traduire. En effet, vous notez que j'ai tout traduit le message, mais j'ai pas traduit intégralement la forme, parce que je n'ai pas repris mot à mot ce qu'il disait. Oui. Je vous ai juste fait passer le message, je vous ai pas fait vraiment passer toute la forme avec ses répétitions, ses scansions qui sont aussi le propre de Donald Trump. Quand il veut faire passer un message, il répète en boucle.
Et pourquoi vous ne répétez pas, vous, en tant que traductrice, vous devriez ?
Ah oui, normalement je devrais, mais là, pour l'exercice, j'ai voulu vous épargner d'avoir une répétition infinie qui ne servait à rien. Parce que je n'ai pas besoin, moi, de vous convaincre.
Bon, on dit qu'il a été élu en partie grâce à ses discours, d'ailleurs. Certes, assez vite de sens, mais direct, avec des phrases clés, des répétitions, et une partie des Américains, la partie la moins cultivée, la moins instruite, hein, disons-le, a enfin compris un discours politique.
Oui, c'est vrai, il y a la partie la moins instruite, mais pas seulement, c'est aussi toute la partie qui éprouve paradoxalement un certain mépris pour l'élite intellectuelle, qui aussi inversement et manifeste ce mépris envers une Amérique plus simple. Et cette base américaine qui a élu Donald Trump, pour une fois, en entendant un homme politique qui avait l'air de parler sincèrement avec des mots qui venaient du cœur, parce que des mots simples, voire grossiers, ils sont sentis représentés. Ouais. Et c'était vraiment la première fois, puisque le président précédent, Barack Obama, était un vrai intellectuel qui maniait la langue de bois parfaitement. Et donc c'était un langage qui ne s'adressait pas à tout le monde, finalement.
Et puis la clé, c'est Twitter. La clé de la communication de Trump, ce sont ses tweets. Il se lâche complètement, c'est du jamais vu. Et même si Barack Obama a utilisé Twitter, hein, lui en a fait son principal canal de diffusion de sa parole et de ses pensées.
Tout à fait. Alors Barack Obama a utilisé Twitter, mais de son propre aveu, c'est pas lui qui tweetait. Donc Donald Trump est vraiment le premier à s'être emparé de ce média, et il s'en est emparé de façon très adroite et assez fantastique en fait, parce que ça correspond tout à fait à son mode de pensée, à son mode de fonctionnement. Mm-hmm. C'est percutant, c'est rapide, c'est éphémère, et ça fait grosse impression.
Et c'est lui qui les dicte, hein, il ne les écrit pas lui-même.
Alors, il doit en écrire lui-même parce qu'il y en a quand même certains qui sont sacrément mal fichus.
Oui, et puis plein de fautes.
c'est ça. Donc, on soupçonne quand même qu'il y en a pas mal, surtout ceux qui fuient au réveil, qui doivent être écrits par Donald Trump lui-même. Ouais. Mais de son propre aveu aussi, parfois il les dicte.
Ouais. Bon, il y a deux libraires qui vont vous dire ce qu'ils pensent de votre livre, Bérangère Cap sur la Suisse. Claire Renaud est avec nous. Allons-y, Claire.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était un livre très plaisant à lire et vous décortiquez vraiment avec précision son langage. Le constat de ce président colle tout à fait avec l'actualité. Pouvons-nous tout dire? Pouvons-nous tout se permettre? Surtout quand on est le président de la première puissance mondiale. Et pour ceux qui avaient encore des doutes sur ses qualités de président, je recommande ce livre ardemment.
Au Canada, le tueur Jérémy Laniel est très attaché à la qualité du langage.
Oui, c'est un livre qui malheureusement fait rire et pleurer à la fois. Et le traitement de Viénot, lui, est efficace. C'est le sujet qui déprime. À chaque page, on se pince un peu en espérant qu'il s'agisse d'une fiction. Mais non, Trump est bel et bien président. Il a bel et bien dit et écrit autant de sottises. Si la prémisse peut paraître cocasse, le livre est fouillé, c'est intelligent, brillant. C'est un travail essentiel, malheureusement, pour cerner la bêtise humaine.
Eh oui, c'est plutôt réussi comme livre, Bérangère Viénot. Vous soulignez que Donald Trump utilise le même vocabulaire que certains dictateurs. Un langage binaire qui simplifie la pensée. Et selon vous, il admirerait les dictateurs, ceux du passé, ceux d'aujourd'hui?
Alors, c'est pas selon moi. Il a en effet admis lui-même qu'il admirait certains dictateurs.
Il l'a dit carrément?
Oui, il a dit par exemple que c'était bien dommage que Saddam Hussein et Kadhafi soient morts parce que eux au moins...
Oui, ça c'est vrai.
Eux au moins...
Chassaient les terroristes.
Ils tuaient les terroristes. Ouais. Et il cache pas son admiration. Admiration pour Duterte aussi, qui est un dictateur et qui est sanguinaire. Il a été le premier à féliciter Bolsonaro, donc bon, qui a été élu, certes, mais dont on se doute que ce ne soit pas non plus un parangon de démocratie. Donc c'est quelque chose qu'il assume parfaitement, oui. Et dans son vocabulaire, qui est effectivement, comme vous le dites, binaire, on reconnaît un vocabulaire.
Non, ça, c'est vous qui le dites, binaire.
Oui, c'est moi qui le dis, mais enfin, si vous l'écoutez, je pense que vous serez rapidement d'accord.
Ça n'engage que vous quand même.
Oui, ça m'engage. Ça n'engage pas que moi, je ne suis pas la seule à l'analyser comme ça. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'évoque Olivier Mannoni qui est le dernier traducteur de Mein Kampf qui a fait une étude du langage du Troisième Reich, de Goebbels particulièrement, qui était donc le propagandiste d'Hitler. Et où il fait lui aussi un parallèle, donc Olivier Mannoni, entre le langage de Trump, c'est-à-dire cette façon de simplifier la langue et de parler en slogan de façon à pénétrer vraiment le plus grand nombre, en fait, et de façon simpliste et diviser la société, et des langages totalitaires qu'on a déjà vus en Europe au XXe siècle.
Il utilise ce langage, cette pensée binaire, à chaque fois qu'il évoque le réchauffement climatique. Quand il neige à New York ou qu'il y a une vague de froid à Los Angeles, eh bien, il va marteler que le réchauffement est un canular. Comme on peut le faire, finalement, au comptoir d'un bar pour râler ou pour blaguer.
Voilà, c'est ça.
C'est la
aussi
méthode.
C'est aussi une des raisons de son succès, finalement, parce qu'il y a plein de gens qui estiment que Donald Trump, ben, il est comme eux. Il pourrait être leur compagnon de comptoir un samedi matin devant un petit blanc à dire, bah oui, si ça se réchauffait le climat, on se gérerait pas les miches dehors.
Vous allez loin quand même, Bérangère. Hein.
Oui, je vais loin, mais je l'assume.
Vous retournerez aux États-Unis ou pas après ce livre, après cette émission?
Si on me laisse, oui, mais je suis pas certaine qu'il y ait bien plus longtemps.
Oui. Bon, il a une connaissance géopolitique très limitée aussi. Vous écrivez qu'il n'aime pas lire ni les notes, ni les discours, encore moins les livres. On s'arrache les cheveux, hein, parfois à la Maison Blanche, même en géographie, il est mauvais, au point de dire un jour que la Belgique est une très belle ville.
N'est-ce pas? Bah alors, j'ai pas grand-chose à rajouter. En effet, c'est assez parlant. Enfin, on peut donner d'autres exemples. Par exemple, il a dit devant des républicains qui s'auto-qualifient de parti de Lincoln, mais vous saviez que Lincoln était républicain? Et oui, il le savait. En fait, tout le monde le savait, sauf lui. Donc, il sait pas grand-chose. Et les peu de choses qu'il sait, eh bien, il les affiche dès qu'il a l'occasion.
Ça paraît aberrant, Bérangère. Vraiment, on a du mal à y croire. J'ai fait rechercher le son sur la Belgique parce que j'ai eu un doute. Vraiment, c'est tellement absurde. Et on l'a retrouvé.
So Belgium is a beautiful city.
Voilà, c'est aussi simple que
mais
ça.
Mais vous ne me croyez pas en réalité.
Ah mais si, mais bon, vérifie, vous savez. Le pire dans tout ça, selon vous, Bérangère, c'est que Donald Trump va laisser une empreinte dans l'histoire des USA. C'est un président qui laissera une trace.
Oui, le problème, alors Donald Trump est un problème, ça c'est une certitude en tout cas, c'est mon opinion personnelle, mais je sais que je la partage. Mais le vrai problème de l'Amérique, c'est que Donald Trump un jour va partir, que ce soit en 2020 ou en 2024, mais que sa base, les gens qui l'ont élu et les gens qui l'ont écouté, qui ont écouté cette langue simple, qui divise les gens, qui rend l'Amérique de plus en plus agressive, ces gens-là, ce sont les Américains, ils sont encore là, ils seront toujours là, ils font des enfants, ils votent de plus en plus parce que maintenant ils se sont rendus compte qu'ils avaient une voix. Et en fait, la vraie langue de Trump, c'est la langue de cette Amérique-là. Et le vrai danger, il est là. Et si on s'en préoccupe pas et qu'on se dit le problème c'est Trump et quand il sera parti, tout sera réglé, alors on se fourre le doigt dans l'œil.
Merci beaucoup Bérangère Viennot. La langue de Trump est parue aux éditions Les Arènes. Très bon livre, on apprend plein de choses. Bonne chance pour votre prochain voyage aux États-Unis, Bérangère.
Merci.
À bientôt. À suivre le nouveau Grégoire Delacour et un essai sur le MUFA. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien tant mieux, restez avec nous, ce sera avec l'humoriste et scientifique canadien d'origine sénégalaise Boukhar Diouf. Et voici le son de Mayotte avec l'artiste M. Toro Chamou et son tout nouveau titre dans la librairie francophone.
Kodza machitani Leo saheuni Sivenu haza kweli za mazoni Na wasei Kawasaki ya wasuya Wafundi walashea Tasiriga u haja hazila mapea Na wasei Ravanwe, Ravanwe,
Ravanwe,
Ravanwe, Ravanwe,
Ravanwe, Ravanwe,
Ravanwe, Ravanwe,
Ravanwe,
Ravanwe, Ravanwe, Mashaka yangia Hanai maore pia Mana wasika isiko nyomosha Ewa sei Dala otinia Nekaka wasinia Besi ya sana wanyisai maore Ewa si
Swahili.
Le Maoré aime Toro Chamou avec Chenge Langou sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Maman, tu te souviens ? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prélat m'avait embrassé.
Pourquoi vous étiez pas allé voir la police ?
Peut-être qu'on aurait dû.
Il a toujours été doué pour remuer la merde.
Tu n'as pas le monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici. Hein.
La vérité qui sort enfin.
Sur cet extrait de la bande-annonce du nouveau film de François Ozon, Grâce à Dieu, Grégoire Delacour est dans la librairie pour son nouveau roman Mon Père, paru aux éditions Lattès. Alors vous abordez le même sujet, traité différemment, Grégoire. Dans votre roman, un père découvre que son fils de 10 ans a été abusé par un prêtre. Vous racontez chronologiquement ce qui s'est passé. On pourrait même croire que vous l'avez vécu.
Le personnage en tout cas l'a vécu, les personnages l'ont vécu, des millions d'enfants l'ont vécu. Et j'ai voulu rendre hommage à toutes ces victimes en les laissant pas parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens parlent en leur nom. C'est un livre sur le silence. C'est extrêmement dur de parler. Encore aujourd'hui, on le voit, les adultes ont encore du mal à parler. Le silence se fissure lentement, laborieusement, méticuleusement, à cause de la pression. Mmh. Ce sont des choses qu'on connaît depuis des décennies. C'est extrêmement triste que ça arrive maintenant. C'est tant mieux, mais c'est quand même extrêmement tard. Les dégâts ont été épouvantables dans les familles, dans les corps des enfants. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est le silence des pères, la colère des pères, l'incapacité qu'on a parfois à protéger nos enfants.
Alors justement, vous posez cette question, comment un père doit réagir face à l'abominable crime, face au viol d'un enfant? Et là, dans la tête et les actes de votre personnage, ça dérape. Il va aller à l'église, casser tout ce qu'il peut, s'en prendre au prêtre présent ce jour-là, quitte à se blesser lui-même. Il veut tout détruire et faire souffrir le responsable. C'est la vengeance d'abord.
C'est la vengeance parce que la vengeance, c'est une souffrance qu'on peut pas supporter seul. C'est-à-dire on doit la retourner contre quelque chose ou contre soi ou contre le monde. C'est quand même très curieux de voir à quel point il y a une impunité autour des bourreaux, d'enfants en tout cas. Et je pense qu'on peut se sentir très seul quand la société, que ce soit une église, une école ou l'État, ne vous protège plus. C'est Hobbes qui disait dans le Léviathan au XVIe siècle que le bon contrapasso, d'une certaine manière, la bonne contrepartie à la sécurité, c'est renoncer un peu de liberté. Mmh. Quand on renonce à trop de liberté et qu'on n'est pas protégé, que nos enfants ne le sont pas, alors qu'est-ce qu'on fait ?
Mais alors, il y a plusieurs phrases sur la justice, Grégoire Delacour, qui vont déranger probablement le lecteur. Comme celle-ci, page 95, vous écrivez « La justice n'est pas faite pour les victimes, la justice n'est pas ce qui est juste, elle ne répare pas ». Elle n'a pas d'enfant.
Oui, je crois que la justice est faite pour punir. On est dans une société qui punit. On punit en avance. On punit préventivement. La colère des Gilets jaunes n'est pas innocente à ces punitions préventives.
Ça n'a rien à voir, les Gilets jaunes, là.
Non, je parle de colère.
La colère des Gilets jaunes n'a rien à voir.
Elle est très très longue. Quand on est dans une société où on est harcelé, puni par avance, je pense par exemple au mal qu'il fait aux automobilistes, c'est de la punition.
Non, mais c'est autre chose.
Je suis d'accord.
Juste la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous voulez dire dans ce livre que vous comprenez ou même que vous agiriez de la sorte en faisant votre propre justice, en vous affranchissant de la loi?
C'est une question, c'est difficile de répondre. Mmh. Je pense qu'on n'est pas capable de faire justice. On n'est plus capable, nous, de faire justice. Donc, on s'en remet à la justice. Le problème, c'est que...
On n'est plus capable de faire justice ?
Nous-mêmes, on n'est plus capable.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On a remis le pouvoir de la justice à la justice.
Ouais.
Nous, on ne peut pas.
Ouais.
On ne peut pas faire justice soi-même. On a été éduqués pendant des centaines d'années avec l'Ancien Testament où on nous dit qu'on a cette légitimité-là. Et un jour, ça a basculé. On ne peut pas. L'homme, le citoyen, ne peut pas faire justice. On frappe votre fils. Vous ne pouvez pas aller étrangler celui qui l'a frappé.
Et pourtant, on peut en avoir envie.
On peut en avoir envie, mais ça c'est autre chose.
Ouais.
Donc comment, s'il y a un sentiment d'injustice de la part d'un papa, par exemple, d'une victime, comment on fait qu'est-ce qu'on lui dit, comment on explique à ce papa quand le bourreau a 3 mois de prison.
Je vais aller plus loin, Grégoire Delacour, avec une question brutale. La peine de mort serait-elle justifiée dans certains cas pour vous ?
C'est une question difficile. Je crois que c'est trop tard pour dire oui. Je pense que l'humanité a passé un grand pas et il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pense qu'il faut se réinterroger sur la punition des gens qui abusent des enfants. Je pense qu'il y a quelque chose, pour moi, du domaine de l'intolérable. Je trouve que le système judiciaire est peut-être, faut le revoir,
est trop faible.
Un peu faible. Et le revoir et se dire qu'est-ce qui est une juste punition pour ça. Et je parle pas que des prêtres, hein. 80% des actes de pédophilie, d'inceste sont dans les familles. C'est quoi une punition qui serait juste pour protéger les autres enfants? Et surtout, qu'est-ce qu'on va enfin faire pour réparer les enfants, pour les aider? Parce qu'eux, ils sont condamnés à vie dans leur corps effracté.
Et puis, il y a la notion du pardon, l'un des fondamentaux de la religion. Le prêtre l'incite au pardon. Comment est-ce qu'on vit avec le pardon? C'est la question que vous posez. Vous écrivez, le pardon permet l'infamie. Le pardon autorise toutes les abominations. Il est la semence du mal, l'épine du monde. Oui, c'est pas très catholique, ça, Grégoire.
Non, moi, je suis un catholique contrarié. Vous savez, j'ai été catholique, croyant, très optimiste dans cette foi, dans cette humanité qu'il y a dans la religion, et extrêmement blessé quand je vois le mal qui a été fait, qui sont des mensonges. Et je suis effaré de voir que ce qu'on a appris à certains types de personnes, notamment les prêtres, les empêche pas de faire du mal. Et le pardon, c'est quand même un petit peu la tarte à la crème qui permet tout. De dire, je vais demander pardon, vous serez pardonné, mais quelle facilité. Certains prêtres disent, on ne m'a pas arrêté. Ils seront pardonnés. C'est terrifiant, donc faut faire un peu attention à tout ça, je pense.
On va laisser la place à nos libraires, Grégoire Delacour. On commence par la Belgique avec Annick Dor.
Oui, c'est vrai qu'on ne sort pas indemne de ce roman. C'est en effet un très beau traitement de l'épineuse question justement du pardon, qui semble en effet un peu facile. Au-delà de ça, moi j'ai été quand même contente de voir que vous généralisez la critique à tous les pédophiles qui peuplent le monde et que vous ne tapez pas uniquement sur les prêtres catholiques, même sinon évidemment aucune excuse. Et donc je crois que vous élargissez bien le propos, vous incluez tous les pervers qui sont près de nos enfants et ça c'est quand même une bonne chose, quoi. Voilà.
La Suisse ou la France, on continue avec qui, Grégoire ?
Comme vous voulez.
Vous dites
Suisse.
Suisse, Claire Renaud.
Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un livre très dur. Il y a même des passages que j'ai vraiment beaucoup de peine à lire, parce qu'ils sont durs, durs, durs. Mais en même temps, c'est un livre qui est très sensible. Votre écriture, elle est limpide, et vous décrivez extrêmement bien la vie d'avant et la vie d'après. Vos dialogues sont excellents. J'ai aimé aussi les discrétions de temps que vous faites beaucoup. Et puis la narration, elle est très bien menée. Bref, moi j'ai trouvé que c'est un roman bouleversant, mais qui n'est pas évident à conseiller.
Mathieu Colombe, êtes-vous d'accord en France ?
Plutôt oui, je pense que ce livre, même s'il colle à une certaine actualité, est vraiment salutaire. Alors évidemment, effectivement, certains passages sont à la limite du soutenable, mais le plus important, c'est qu'à mon sens, il met des mots sur quelque chose qui est longtemps resté tabou dans notre société et que généralement, on aborde du bout des lèvres. Et en plus, c'est fait avec une qualité d'écriture indéniable et surtout une manifeste intelligence.
C'est vrai que c'est un roman intense, Grégoire Delacour, très dur, qui réussit à transmettre suffisamment de cruauté, de crudité, je dirais. Vous décrivez l'acte pédophile dans les détails, mais vous mettez suffisamment de distance, en fait, pour que ça soit encore possible à lire. Vous êtes sur le fil de l'intolérable, à la fois dans l'histoire, dans le propos et dans l'écriture.
Oui, c'était très dur à écrire, cette partie-là, parce que je voulais trouver une parole qui parle du silence et qui mette des mots sur l'inimaginable. Et je crois qu'on ne peut pas supporter de ne pas savoir ce qu'on a fait à nos enfants. La grande souffrance des parents d'enfants qui ont disparu, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et certains disent, je préfère le savoir mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et le papa de ce petit garçon va voir ce prêtre et lui dit, dites-moi tout, je veux tout savoir, je veux qu'il n'y ait plus d'ombre, que mon imagination d'homme puisse pas aller plus loin, parce qu'il n'y a pas de fin à l'horreur.
Oui, parce qu'il y a l'histoire de la famille derrière. Ouais. Il y a ce petit garçon en parallèle, qui a sa famille avec ce papa, qui va essayer de se venger, enfin, qui va vouloir se venger.
Qui va chercher une réparation, de se réfléchir comment on peut réparer plus que la vengeance. On est plus dans la colère, dans la réparation, dans cette répartition. Vous savez, la vengeance, c'est échanger un mal contre un mal. Le pardon, c'est échanger un bien contre un mal. Il oscille entre les deux. Mais il a une colère. Et cette colère, cette indignation, elle est nécessaire. Et si elle peut réveiller tous les lecteurs et qu'on s'indigne et qu'on remette nos enfants au centre du monde et de nos préoccupations, ça serait quand même pas mal.
Et puis, vous évoquez la culpabilité aussi. La rancune vis-à-vis de ses propres parents. La foi, l'éducation, tout est là. Et tout a échoué dans votre histoire. Tout s'est brisé à cause d'un salaud. À cause d'un ignoble prêtre qui crache sur tout ce qu'il incarne pour une pulsion. Parce que c'est ça.
Oui, c'est difficile. Et j'aimais cette libraire, la première, qui disait que je tape pas entre guillemets sur l'Église, c'est pas le sujet. Moi, ça m'intéressait l'Église parce que je connais les pensions catholiques, parce que j'y ai passé de très nombreuses années, et que c'est un cadre. Ce qui me choque dans l'Église, mais comme dans un État ou une colonie de vacances laïque, c'est que le système protège les coupables. Et ça, c'est absolument inadmissible.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retient de votre livre, Grégoire. Ouais. À la fin, alors je peux pas tout dire, je peux pas raconter la fin,
plaît,
mais non, pas de souci. Mais vous laissez entendre quand même que l'Église, non seulement a fermé les yeux pendant des décennies, mais que ça continue. Et sans donc tout dire, vous semblez ne pas être très optimiste, Grégoire de la Cour. Vous semblez dire que tout va encore et encore continuer.
Si rien n'est fait pour que ça s'arrête, parce qu'à un moment on décide que les choses s'arrêtent, oui, je suis assez inquiet. Je lisais récemment que l'Église d'Asie notamment et d'Afrique sont encore dans le déni. J'attends beaucoup de la conférence, enfin de la rencontre du pape François et des 190 évêques.
Le sommet
au
Vatican en ce moment.
Il y a des choses simples. Si quelqu'un fait le mal, on l'excommunie et on le rend à la justice des hommes. C'est très simple.
Et dans le film d'Ozon, il y a un prêtre qui dit « Grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits ». Et c'est sans doute la pire phrase de son film, que l'on soit croyant ou non. C'est impossible à entendre, et je crois que quand on est croyant, c'est encore pire. Ouais. Merci beaucoup Grégoire Delacour.
Merci.
Mon père est paru aux éditions Jean-Claude Lattès, un roman choc mais magistral qu'il faut lire pour mieux comprendre. Merci Grégoire, félicitations.
Merci.
À suivre la chronique des libraires et un essai très particulier, inattendu même, sur les matières fécales avec l'humoriste et scientifique Boukhar Diouf. Avant cela, on écoute le nouveau titre des Innocents. Bonne journée ou bonne soirée à travers le monde avec la librairie francophone.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Tout nouveau titre des Innocents avec Apache. Les coups de gueule et les coups de cœur de nos libraires. On commence avec la crise de Claire Renaud en Suisse. Et un gros coup de gueule.
Une petite crise quand même. Pour Geneva, Paul Rousteau chez Louis Vuitton. Alors c'est un joli bleu qui nous invite à ouvrir l'ouvrage et on découvre au fil des pages des photos de Genève.
Oui.
Mais on se sent pas très bien. Que se passe-t-il? En fait, toutes les photos sont floues et les couleurs sont criardes. Vous savez, on a l'impression de sortir de chez l'opticien. Est-ce qu'on a besoin de lunettes?
C'est un effet de style. C'est ça.
Oui. Alors, il y a quelques belles photos. Mais au final, c'est un livre que je trouve surfait, cher, qui se veut chic pour une ville réellement luxueuse.
Bon, c'est la collection des livres de voyage de Louis Vuitton. Et là, c'est sur Genève. Apparemment, ça ne passe pas chez Claire Renaud. Merci Claire. Un autre coup de gueule au Canada, Jérémy Lagnel.
Oui, c'est sur les livres qui sont issus des séries télévisées. C'est très américain. Et là, on voit ça arriver au Québec. En tant que libraire, je suis capable de considérer le livre comme un bien culturel, un bien de consommation. Mais lorsque le livre devient un produit dérivé, un livre comme un prolongement de Yamaska ici au Québec. Je trouve ça particulier, pour ne pas dire dérangeant. Il y a tant de bons livres, de bons personnages de fiction. Alors pourquoi plusieurs lecteurs doivent se ruer sur des histoires de parallèles, de téléromans? Ça me sidère énormément.
Yamaska, c'est une série québécoise de 163 épisodes quand même, qui a été diffusée à la télé, qui a eu un gros succès au Québec. Bon, bah écoutez, il faudra juste regarder la série. Merci beaucoup Jérémy. Mathieu Colombe, un coup de cœur quand même.
Oui. Un coup de cœur sur un petit livre qui est sorti dans la collection Dilaceratio Corporis chez Fage, qui est une toute jeune collection très élégante et qui propose une balade funéraire gourmande. Alors c'est un ouvrage un petit peu spécial, donc ça unit quand même deux de mes passions qui sont donc la mort et la nourriture.
Ah oui, super.
Et c'est aussi une étude
ethnologique. Ça va bien en France, ça se passe bien chez vous en France.
Oui, ça se passe bien. Oui, moi j'aime bien. Et donc c'est pratiquement une étude ethnologique, c'est-à-dire qu'on va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les rites funéraires dans différents pays, évidemment, le plus exotique possible, on va pas couvrir tout et on apprend des choses très intéressantes sur certaines traditions comme par exemple à Bali.
Et qu'est-ce qui se passe à Bali très vite?
À Bali, quand on a un mort, donc on fait passer de l'eau sur son corps, on récupère dans une bassine pleine de riz, on secoue la bassine, on fait cuire le riz, ensuite on mange le riz.
Merci beaucoup Mathieu Colombe. Ça s'appelle donc
Balade funéraire gourmande
aux éditions Fage. Avis aux amateurs, ce sera pas moi. Merci beaucoup.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Boukhar Diouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de Montréal, Boukhar, après un essai sur la communication des arbres qui avait fait beaucoup parler de lui dans cette émission. Vous publiez un essai inattendu sur les matières fécales des animaux et des hommes. Les bouses et autres résidus de digestion sont parfois très utiles. On doit beaucoup, par exemple, aux excréments du poisson perroquet.
Ben voilà, c'est un livre sans prétention, mais je voulais faire cet exercice de vulgarisation parce que les matières fécales, nous avons vraiment une relation amoureuse avec les matières fécales. On le voit avec les enfants.
Oui.
Quand ils sont tout petits, on leur dit « t'as fait un beau caca », on le dit parfois aux enfants. Mais en vieillissant, on soulève les couches et on manifeste du dédain. Et cette idée du rapport amoureux qu'on a avec le caca m'a amené à parcourir un peu le monde animal pour démystifier la chose.
Oui, alors le poisson perroquet.
Le poisson perroquet en fait partie, effectivement.
Qu'est-ce qu'il fait?
Donc c'est un poisson qui mange le corail.
Oui.
C'est ce qui mange le corail et qui extrait ce qui est nutritif là-dedans et défait une partie de ce qui constitue le sable fin de certaines plages sur lesquelles on aime bien se dorer la couenne, voilà. Pour les voyageurs avertis.
C'est vrai que les scientifiques, il y a des scientifiques, c'est très sérieux, qui pensent que 70% du sable des plages des Caraïbes provient des déjections du poisson perroquet. C'est pas rien, quand même.
Mais heureusement, oui, c'est vrai, mais heureusement, on s'en rend pas compte qu'on a un verre de margarita.
Tout au long du livre, vous parlez du moufa, Boukhar Diouf.
Oui.
Alors dites-nous.
Oui, c'est pour alléger la chose.
Eh ben oui.
Pour alléger la chose, parce qu'on faisait souvent cette blague quand j'étais jeune. Au lieu de dire le caca ou la crotte, on disait le moufa.
Voilà.
Alors ça aide un peu à passer la chose pour les mamans qui seraient réfractaires à ce que leurs enfants lisent ce bouquin. Alors,
bon, on apprend
moufa,
plein de choses.
Plus poétique.
On apprend plein de choses dans ce livre. On apprend aussi que contrairement aux vaches, les kangourous produisent des gaz qui sont bien tolérés par l'atmosphère. Ce ne sont pas des gaz à effet de serre. Et il y a là aussi des études très scientifiques pour voir si les vaches pourraient avoir le fameux enzyme qui leur permettrait de ne pas contribuer à détruire la planète.
Ah ouais, voilà, ça c'est les Australiens. Hein. Les Australiens ont essayé de transplanter de la flore intestinale de kangourous à des vaches. parce qu'une partie de leur gaz à effet de serre vient des émanations de leurs vaches. Ils ont eu un problème avec les bouses de vaches il y a, dans les années 60, les Australiens, parce que la vache n'existait pas en Australie. Et donc, quand les gens ont commencé à augmenter le cheptel de vaches en Australie dans les années 60 et que les bousiers australiens ont vu les bouses de vaches tomber, ils savaient pas, les bousiers savaient pas quoi faire avec la bouse de vache parce que ils étaient habitués à rouler des cottes de kangourou. Et donc, il a fallu en Australie, la nuisance causée par les mouches était telle que les biologistes étaient obligés d'aller importer des bousiers d'Afrique pour régler la chose.
Les scarabées.
Ils sont allés chercher des œufs de bousiers d'Afrique. Et ils les ont incubés en Australie pour régler le problème des bouses de vaches en Australie.
Alors, oui, c'est un vrai problème. C'est vrai que ça peut être considérable, le problème des excréments.
Absolument, absolument. Parce que les vaches ne broutent pas vraiment dans des endroits où ils font des bouses qui disparaissent pas. Et on doit un merci, un grand merci au grand groupe des bousiers sans lesquels la planète au complet serait dans la merde, comme on dit. Excusez-moi pour le terme. Alors, on a le droit de le dire, le livre porte sur la merde, ok.
Faites rire Grégoire Delacour. Dans votre essai sur les arbres, vous parliez aussi un petit peu de votre enfance. Et vous racontez encore une fois là que votre maman vous envoyait chercher des bouses de vache dans la savane pour faire la cuisine.
Ah ben oui, tous les Africains qui écoutent, qui viennent du Sahel, savent que la bouse de vache séchée, c'est un combustible extraordinaire. Et donc, nous, quand on était jeunes, on allait ramasser la bouse de vache. Moi, je viens du Sénégal, je suis un serrère du centre du pays, de la région de Fatick. Et la bouse de vache séchée, on appelle ça umbel dans ma langue. Et le umbel, on ramassait ça et on l'utilisait comme combustible. Et puis donc, c'est en fait, je reste dans la continuité parce que passer des arbres aux excréments, les excréments, c'est le fertilisant. Et la planète végétale a évolué en regardant les animaux. Parce que la vérité, c'est que une fraise, quand elle est mûre, elle est sucrée, n'est-ce pas? Mais elle est sucrée quand elle est pas mûre, elle est légèrement toxique et on ne peut pas la manger. Pourquoi la fraise, elle synthétise du sucre quand elle est mûre, la fraise? C'est parce qu'elle sait, elle dit aux animaux, venez me manger, vous allez déféquer mes graines de l'autre côté pour que je puisse germer. Alors, les plantes se sont adaptées sur la planète bleue en étroite collaboration avec les animaux.
Oui, c'est vrai.
Et les biologistes ont un beau terme pour désigner ça. On appelle ça l'endozoochorie.
C'est ça.
C'est-à-dire la dispersion des graines, des végétaux à travers les excréments des animaux.
Alors, c'est vrai que les végétaux,
beaucoup ce thème-là aussi. Oui.
Les végétaux encouragent les animaux à les manger. Et on a constaté, du coup que certains végétaux se protègent de certaines espèces animales inutiles pour eux. Le piment, par exemple, qui contient de la capsaïcine, qui met le feu aux papilles, en fait, gustatives, en est un exemple. Voilà. Le piment ne souhaite pas être mangé par l'homme. Mais en revanche, les oiseaux, eux, sont insensibles à la capsaïcine.
Et voilà, les oiseaux étant insensibles à la capsaïcine, parce que les oiseaux disséminent, ils n'ont pas les récepteurs de la capsaïcine que nous avons.
Ouais.
Donc les oiseaux disséminent les graines de piment par leurs excréments. Si on pousse la réflexion plus loin, j'ai parlé du bousier, mais il y a un arbre africain qui s'appelle Ceratocarpium. Ceratocarpium, au cours de l'évolution, a développé des graines qui ressemblent à des boules de bouse de vache. Parce que vivant à côté des bousiers, l'évolution l'a poussé à développer cette stratégie pour que les bousiers confondent ces graines à des boules de bouse de vache et puissent les enterrer. Donc, il se fait germer gratuitement. Donc, ça, c'est de la coévolution. Bon. Permet aux plantes de faire ça. C'est fantastique.
Bon, Bocard Diouf, on va parler d'un café très rare. Si vous êtes amateur de café, restez avec nous parce que c'est un café qui est torréfié par les éléphants. Vous allez tout comprendre. Ce sera après nos trois libraires qui ont lu votre essai, Bocard Diouf, Mathieu Colombe pour La France. Quel est votre avis?
Eh bien, très honnêtement, ce petit essai jubilatoire change les idées et fait du bien. Alors, même si le lecteur, effectivement, ne verra plus les plages caribéennes du même œil, il pourra apprécier quand même que Bocard Diouf a su éviter les écueils du sujet et a donc pu, dans la plus grande bonne humeur, nous offrir un moment de partage très étonnamment rafraîchissant.
Jérémy Laniel, au Canada, êtes-vous d'accord?
Oui, je crois qu'on doit d'abord en souligner le travail nécessaire des vulgarisateurs scientifiques, alors que l'espace médiatique qu'on leur laisse ne cesse de se réduire. Encore une fois, dans ce livre, Bocard Diouf fait preuve vraiment d'humour et d'érudition pour nous intéresser à un sujet rebutant qui aurait bien pu nous passer 100 pieds par-dessus la tête. Et pourtant, c'est une réussite, c'est fort intéressant.
Annick Dor, en Belgique, concluez.
Ben oui, moi aussi, j'ai trouvé ça amusant et instructif. J'ai trouvé que la nature était drôlement bien faite. Et c'est vrai que parmi les techniques animalières que vous décrivez, moi j'ai un petit penchant pour cette histoire de pingouin, de manchot qui propulse ses crottes
loin de son nid pour empêcher que les parasites n'envahissent le nid. Et je trouve que c'est un bel exemple d'amour maternel ou paternel et d'acclimatation. Donc voilà.
Plein de petites histoires, Boukhar Diouf, ça vous fait rire. Mais c'est vrai que vous nous apprenez des choses quand même. Alors, le café très rare, très cher, c'est en Thaïlande. Le Black Ivory, produit grâce à des grains de café torréfiés par l'éléphant. Expliquez.
Mais voilà, c'est juste des éléphants souvent vieillissants. Mais le fait de faire manger les grains de café aux éléphants qui traversent leur tube digestif, apparemment, ça leur donne un petit goût de revenez-y. Alors, les gens doivent ramasser les grains de café qui ont transité par le tube digestif de l'éléphant.
Qui
et
sont
après,
intactes.
Ces graines sont torréfiées et ça coûte cher.
Et ça coûte cher parce qu'il faut 33 kilos de café, de graines de café pour en récupérer un seul kilo parce qu'on récupère ce qui est intact. Et donc, ça coûte 1 100 $ le kilo de café, soit environ $50 la tasse.
Voilà, ça coûte cher.
C'est raisonnable. Il y a une partie de votre livre, Boukhar Diouf, le dernier chapitre qui est consacré aux excréments humains. Là, franchement, c'est un peu plus difficile à lire, hein, sans avoir la nausée, parce que...
Mais pourquoi, Emmanuel?
Bah, un petit peu, quand même. Moi, j'ai eu un peu de mal. Mais peut-être parce que je l'ai lu d'une traite, donc à un moment, quand on arrive aux humains, là, c'est compliqué.
Mais écoute, ça fait partie de la vie, les excréments, n'est-ce pas?
Ah, mais attendez.
C'est une mine d'or.
Alors, la mine d'or, justement, parce qu'il y a un chercheur japonais qui a imaginé recycler les protéines contenues dans notre moufa, notre caca à nous, donc, pour en faire de la viande.
Oui, voilà, parce que le caca, ce n'est pas juste du jetable. Les protéines contenues là-dedans, c'est une expérience aussi inusitée. Vous tapez ça sur l'Internet, vous allez le trouver assez facilement.
Oui.
Mais le hamburger en question, il coûtait trop cher. Alors,
le caca burger.
Je ne pense pas que c'est une voie d'avenir pour demain. Mais il y a plein d'expériences qui sont faites avec le caca humain. Il y en a qui essayent les bouts d'épuration. On pourrait parler des bouts d'épuration qu'on utilise pour faire des briques. En Angleterre, il y a des gens qui l'utilisent pour faire de l'électricité, de toutes sortes de choses.
Ben oui,
C'est écologique de trouver des solutions alternatives à ce qu'on fait avec ça.
Et oui, parce qu'on en produit quand même 50 kilos par adulte et par an. Donc vous imaginez à l'échelle de la planète si on recyclait tout ça. Ça va, Grégoire Delacour?
Oui, je vais aller prendre un petit café d'éléphant.
Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ou quoi?
C'est ça, quasiment. Bon, merci beaucoup, Boukhar Diouf.
Merci Emmanuel.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Apprendre sur le tas, la biologie des bouses est paru aux éditions La Presse. À bientôt, Boukhar.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le français Clément Froissart avec Amour Armure.
Regarde, je garde mes souvenirs d'hiver. En moi, les mois coulent tels. Moi, coule-t-elle une rivière.
Clément Froissart avec Amour Armure, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet et Fabrice Lègle, avec Julien Dumont à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La librairie francophone arrive à la télévision à partir du 2 mars prochain sur toutes les télévisions francophones publiques. On vous retrouve à la radio la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage culturel francophone. Merci pour votre fidélité. À bientôt, salut.